Alors, qu'est-ce qu'un missionnaire? Je me disais, pour un culte missionnaire, ça pourrait être intéressant de se poser cette question. Qu'est-ce qu'un missionnaire? Moi, quand j'étais enfant, la première image que j'ai eue d'un missionnaire, c'était ça. Un missionnaire, c'est un bonhomme habillé en blanc, avec une barbe blanche et un grand chapeau bizarre. Quand j'avais 7 ans et que j'ai découvert Tintin, c'était mon premier contact avec le mot missionnaire. Et c'était vraiment étrange. Et pendant longtemps, quand j'ai entendu parler de missionnaire à l'église, je revoyais l'image de Tintin. Mais un missionnaire, c'est autre chose. Et je pense que pour nos jeunes, l'image qu'ils auront, c'est celle de Nathan, qu'ils ont rencontré plusieurs fois. Nathan, c'est un missionnaire au Cameroun. Et puis, à côté, j'ai mis les prédécesseurs de Nathan, Hervé et Laurence Turquet, qui étaient eux aussi au Cameroun, avant Nathan, quand Nathan était enfant, et qui étaient, on a eu la chance qu'ils soient membres de notre église pendant qu'ils étaient missionnaires, donc on avait l'occasion de les voir régulièrement. Aujourd'hui, ils ont quitté le champ missionnaire. Hervé est directeur d'un établissement à Strasbourg, mais on est toujours en contact avec eux. Donc des missionnaires qui partent en Afrique pour apporter une aide technique. Mais ce n'est pas seulement ça, et notre Église n'a pas été seulement confrontée à ces missionnaires-là. Il y a d'autres missionnaires. On a vu passer des missionnaires qui ont été pasteurs, pasteurs de cette Église. Il y a John et Sarah Perkins qui ont fondé cette église, qui en ont été. John a été le premier pasteur. Et puis, pendant plusieurs années, des pasteurs missionnaires se sont succédés. Et j'ai mis ici Neil et Ruth Abbott, qui ont été pasteurs missionnaires britanniques dans les années 90. Ce n'est pas la seule façon d'être missionnaire, ce n'est pas les seuls missionnaires que nous avons vus. Nous voyons aussi d'autres missionnaires avec un ministère plus itinérant, un ministère d'être présent, d'établir des contacts et d'amener les gens à Dieu par les contacts qu'ils établissent. Ici, vous connaissez? C'est Mike et Rachel Cross qui sont parmi nous en ce moment. Ici, c'est plus ancien, c'est Joël et Rhonda Sutton. Alors, ils n'avaient pas cette tête-là quand ils étaient parmi nous. Là, ils ont un petit peu vieilli. Mais c'était aussi des missionnaires qui étaient là et qui fréquentaient l'église et qui, en même temps, étaient dans la région pour essayer d'établir des liens, pour voir s'il y avait des églises à implanter, pour faire du contact. Voilà. Mais ce n'est pas tout. Nous connaissons d'autres missionnaires. Et là, j'ai mis la photo de l'équipe de Living Hope. Living Hope, c'est une église aux États-Unis qui, maintenant, tous les ans, depuis 5-6 ans, envoie une équipe qui, pendant une semaine, est avec nous pour faire des concerts. C'est une grande église qui a vraiment ça à cœur, d'envoyer toutes sortes de personnes dans toutes sortes de lieux dans le monde entier pour aider d'une façon ou d'une autre. Alors chez nous, ils viennent jouer de la musique, organiser des concerts. Ailleurs, ils viennent aider à construire des églises. Ailleurs encore, ils viennent apporter des soins. Je sais qu'il y avait une équipe de dentistes qui était partie dans un pays pour apporter des soins dentaires. C'était très spécialisé. Et donc, nous avons la chance de pouvoir bénéficier du ministère de ces personnes parmi nous. Et puis, dernière chose à laquelle j'ai pensé, ce n'est pas le seul moyen d'être missionnaire, mais encore une chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai pensé à cette question, qu'est-ce que c'est qu'être missionnaire? On ne voit pas bien, c'est écrit petit, mais c'est un des slogans du GBU, missionnaire dans ma fac, missionnaire dans mon école. Le GBU qui travaille parmi les étudiants et qui essaye de faire passer cette idée, d'attirer l'attention des étudiants chrétiens là-dessus, là où tu es et dans ton université, tu peux être missionnaire. Voilà, missionnaire. Du coup, ça ne répond pas à la question. Ce que j'ai préparé, ce que j'ai présenté, c'est tellement varié. Qu'est-ce que c'est qu'un missionnaire ? Dans la Bible, il y a aussi des missionnaires et la grande figure missionnaire, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a, on a l'impression, implanté des églises dans toute la Méditerranée, tout autour de la Méditerranée. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder ce que c'est qu'un missionnaire à travers ce qui s'est passé pour Paul. Regardez ça un peu dans la Bible. Et pour faire le point de départ de cette réflexion, j'aimerais regarder un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens, un texte qui n'est pas forcément ceux qu'on a le plus l'habitude de lire, ceux sur lesquels on a le plus l'habitude de prêcher. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, vous pouvez chercher dans vos Bibles, mais je vais l'afficher également. Corinthiens, au chapitre 11, c'est Paul qui écrit à l'église de Corinthe et qui écrit à propos de lui-même. 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 5. Or, j'estime n'avoir été inférieur en rien à ces super apôtres. Si je suis profane pour ce qui est de l'éloquence, je ne suis pas pour ce qui est de la connaissance. Nous vous l'avons clairement montré, et de toute manière, et à tous égards. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever, lorsque je vous ai annoncé gratuitement la bonne nouvelle de Dieu ? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque, chez vous, j'ai manqué de tout. Je n'ai été à charge de personne car les frères venus de Macédoine ont suppléé à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous et je m'en garderai. Par la vérité du Christ qui est en moi, personne ne m'interdira cette fierté dans les contrées d'Achaïe. Pourquoi ? Parce que je ne vous aime pas ? Dieu le sait. Jusqu'ici, notre lecture, c'est un texte qu'on a peu l'habitude de lire, je le disais, et sans doute parce qu'il y a des reproches. C'est un texte un peu tendu. C'est tendu entre Paul et les Corinthiens, et Paul, ici, a besoin de défendre son ministère. Il a besoin de défendre ce qu'il fait parce qu'il est attaqué. Certainement qu'il fait face à des reproches. On lui reproche son éloquence. Déjà, dans la première lettre aux Corinthiens, c'est des reproches qu'on voit apparaître. Hein. Quand je lis ce qu'écrit l'apôtre Paul dans toutes ses épîtres, j'ai du mal à croire qu'il n'était pas éloquent, qu'il parlait mal. Mais certainement que, comparé à certains autres, il y avait mieux que lui. En tout cas, les Corinthiens lui critiquent ça. Il parle mal. Peut-être qu'on lui reprochait ça aussi parce que ça s'entendait qu'il n'était pas grec. Corinthien, Corinthe, c'est en Grèce, c'est leur langue maternelle. Et quand quelqu'un qui vient d'ailleurs, même s'il parle bien, s'exprime avec eux, sans doute devait-il faire des fautes. Et les Corinthiens se permettaient de critiquer ça. Il ne parle pas bien, il n'est pas éloquent. Deuxième reproche qui doit être fait à Paul, c'est le reproche de ne pas aimer les Corinthiens. Ça, on trouve cette allusion au verset 11. Est-ce que c'est parce que je ne vous aime pas que je fais ceci ? Et je pense que ce n'est pas gratuit si Paul dit ça à ce moment-là. C'est parce qu'il a dû l'entendre. Oh, mais l'apôtre, il ne nous aime pas vraiment. Et déjà, dans la première lettre aux Corinthiens, Paul en parle. Il leur dit « Je vous aime, mais je vous aime comme un père. Et quand vous vous éloignez du chemin, il faut que je vous corrige. Quand vous êtes orgueilleux, quand vous êtes suffisant, il faut que je vous montre le bon chemin. Et même si ce n'est pas facile à entendre, il faut que je vous le dise. L'amour, ce n'est pas seulement dire des choses belles et faciles à entendre, c'est aussi rechercher ce qu'il y a de mieux. Mais ça ne plaît pas aux Corinthiens. Et puis, Paul parle de la question de l'argent. Paul a besoin de leur rappeler qu'il ne leur a rien coûté. Et généralement, quand on parle de ça, quand on vient sur ce sujet-là, c'est que la question est abordée et qu'on se demande, qu'on vient à se demander si ce qu'il fait, c'est vraiment utile. Est-ce que son temps ne pourrait pas être utilisé plus efficacement ? Est-ce que le salaire qui lui est versé ne pourrait pas être plus rentable s'il était utilisé à autre chose ? Ah là là. L'argument imparable de la rentabilité, c'est même biblique. La Bible nous invite à bien gérer ce que nous avons et à bien gérer l'argent. Dans 1 Pierre, l'apôtre nous dit d'être de bons intendants. Jésus lui-même dit qu'il faut être fidèle dans les petites choses pour qu'on nous en confie des grandes. Mais en même temps, si nous sommes chrétiens, si nous suivons Jésus-Christ, nous servons un Dieu qui n'a pas hésité à donner son Fils pour des pécheurs, sans regarder si ça valait le coup ou pas, qui a donné gratuitement. Nous servons un Dieu qui se décrit lui-même comme un berger, prêt à laisser 99 brebis pour aller chercher celles qui manquent. Et je crois que la Bible nous montre qu'il y a plus à prendre en compte que la rentabilité. Dans le passage que nous avons lu, Paul rappelle qu'il n'a rien coûté aux Corinthiens. Chez eux, il était soutenu par d'autres églises. D'autres églises qui ont cru que Paul était utile, qui ont cru que ses dons étaient utiles en Achaïe, à Corinthe et dans les villes à côté. Ces chrétiens, ces autres églises, ont mis de côté de leur argent pour qu'ils puissent exercer un ministère là-bas et faire avancer l'église. Et les Corinthiens ont bénéficié d'un ministère gratuit. Et quel ministère, puisqu'ils avaient l'apôtre en personne ? Donc Paul leur rappelle ceci et qu'il est malvenu de se plaindre. Il m'est déjà arrivé d'entendre des reproches ou des questions à destination de missionnaires. J'ai entendu des questions, est-ce que notre argent est bien utilisé ? Récemment, si vous êtes dans notre église depuis quelques années, vous savez que John et Sarah Perkins ont dû retourner aux États-Unis et prendre leur retraite parce que leur mission manquait d'argent pour continuer à soutenir autant de missionnaires. Les dons diminuent, les gens ne voient plus l'utilité de ce travail. Ils se posent la question, est-ce que c'est rentable d'envoyer des missionnaires et où est-ce que c'est le plus rentable d'envoyer des missionnaires ? Je crois qu'il serait malvenu de juger nos frères américains. Je crois que l'homme est peu différent suivant le pays dans lequel il se trouve. Et notre mission ne roule pas sur l'or et n'a pas les crédits suffisants pour envoyer autant de missionnaires qu'elle l'aimerait. Je pense que c'est un regard général que nous avons sur la mission où nous avons des doutes, où nous ne sommes pas sûrs que c'est vraiment une priorité. C'est des questions que nous nous posons, est-ce que c'est vraiment utile ? Mais nous nous posons aussi des questions lorsque nous recevons l'aide de missionnaires. Et j'ai entendu des gens qui recevaient des missionnaires chez eux, dans leur église, et qui faisaient la remarque quand même, ces missionnaires qui sont là ne sont pas de la même culture que les choses qu'ils font, ça ne se fait pas forcément. Ils ne savent pas forcément ce qui se fait chez nous. suis persuadé qu'il peut y avoir des maladresses culturelles qui sont faites par les missionnaires. Mais il ne faut pas oublier, comme le dit Paul, que le plus important, c'est la connaissance du Seigneur qui est apportée. C'est l'amour du prochain qui est vécu. C'est le cœur pour Dieu qui est témoigné là où on se trouve. Et que finalement, il y a bien plus grand, bien plus important que l'insertion dans la culture. Ainsi, parfois, des reproches sont faits aux missionnaires, mais des fois, c'est simplement des questions, des gens qui ont du mal à cerner, des personnes qui aimeraient savoir mieux ce que c'est qu'un missionnaire. Et pour savoir mieux ce qu'est un missionnaire, j'aimerais regarder trois points, trois choses dans ce que dit Paul sur lui, trois choses que j'aimerais mettre en valeur pour nous aider à cerner ce que c'est qu'un missionnaire. Déjà, un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. Il est envoyé et il est envoyé par Dieu. Voici l'appel que Paul a reçu de la part de Dieu. Paul dit que Dieu l'a appelé en lui disant « Je t'enverrai au loin vers les non-juifs pour leur ouvrir les yeux afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière. » Paul agit avec une conviction forte, avec la conviction d'être appelé par Dieu pour répandre l'amour de Dieu. Il a été appelé par Dieu, mais l'Église également reconnaît son appel. Et dans Acte 13, alors que l'Église priait, l'Église reçoit cette parole, « Mettez à part Paul et Barnabé pour les envoyer. » Ce double appel est important. Un missionnaire, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a une conviction forte et qui part sans ne devoir rien à personne. Ce n'est pas non plus quelqu'un que l'Église prend et envoie, à la limite sans lui demander son avis. Un missionnaire, il est là à la rencontre d'un appel de Dieu pour lui, pour agir selon les dons qu'il a donnés, et d'une confirmation de l'Église qui reconnaît cela. En quelque sorte, un missionnaire, c'est un envoyé de Dieu et d'une Église, une Église ou d'un groupe d'Églises. C'est clairement une grâce faite à travers ce missionnaire qui est envoyé, une grâce reçue par les personnes qui le reçoivent. Quelqu'un qui est envoyé pour quoi faire ? C'est mon deuxième point. Vous l'avez vu avec les photos que je vous ai montrées, il y a toutes sortes de services. Et Nathan aime à le rappeler, ce verset nous a été lu. Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Les missionnaires ont des dons différents et font des choses extrêmement variées. La mission, c'est vraiment un moyen d'exprimer toutes sortes de dons, toutes sortes de dispositions, toutes sortes de qualités. Mais il y a un refrain qui vient dans les Actes des Apôtres pendant le deuxième voyage missionnaire de Paul. C'est cette idée que les missionnaires affermissaient les disciples et les encourageaient à demeurer dans la foi. On a la chance de lire de façon suivie en études bibliques l'Acte des Apôtres et de les étudier, et c'est quelque chose qu'on a vu. Les missionnaires affermissent l'Église. J'aime beaucoup cette expression. Elle ne vient pas dire ce qu'ils font concrètement, mais elle dit pourquoi. Pourquoi les missionnaires agissent ? Paul et Barnabé avaient un but, rendre l'Église plus ferme, plus forte, la faire progresser dans la maturité, l'amener vers l'âge adulte, lui donner de l'assurance. Et donc, ce qu'ils font quand ils sont là-bas, c'est qu'ils agissent comme des aînés, des frères aînés dans la foi, des gens qui montrent qu'on peut compter sur Dieu pour fortifier, pour encourager. Le but de Paul, et je crois, le but de tout missionnaire. Ce n'est pas de venir faire des choses, mais de rendre les chrétiens qui sont là plus fermes, plus assurés dans leur foi, pour que l'Église elle-même soit plus ferme et plus assurée. Comment faire cela ? Ben, nous l'avons vu. Il y a plein de possibilités. Mais il y a encore une fois un verset, une chose que dit Paul de lui-même, qui m'a particulièrement touché et que j'aimerais rappeler. Paul dit « J'ai été juif avec les juifs afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme quelqu'un qui est sous la loi afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec les sans-loi comme un sans-loi afin de gagner les sans-loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Paul se décrit comme un caméléon. Un caméléon qui s'adapte à l'environnement dans lequel il est. Quand les personnes avec qui il est fonctionnent d'une manière, il essaye de prendre cette manière et de fonctionner comme eux. Être missionnaire, c'est s'adapter. Être missionnaire, c'est évoluer dans un environnement qui n'est pas le sien. C'est se rendre vulnérable en acceptant de venir à cet endroit, en acceptant de perdre ses repères. Et au début de ce passage, Paul dit même qu'il s'est fait l'esclave de tous. Être missionnaire, c'est oublier son confort pour servir. Et certainement, quand on oublie son confort pour servir, on a besoin d'encouragement. Mais je crois que le plus grand encouragement, c'est celui d'être à l'image de Christ. Christ qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Ce que Jésus dit de lui-même dans l'évangile de Marc. Et c'est là le meilleur encouragement, non pas celui des hommes, mais de savoir qu'on fait ce que le Seigneur nous demande, qu'on est à l'image de Jésus. Donc voilà, si je devais donner une définition de ce qu'est un missionnaire, je dirais ceci. Un missionnaire, c'est une personne qui est envoyée par Dieu et par l'Église pour affermir l'Église ailleurs en se mettant à la portée des gens au milieu de qui il se trouve. Quelle leçon tirer de cela ? Quelle conduite avoir, nous, sachant cela, sachant ce qu'est un missionnaire ? Je crois que le premier mouvement que nous pouvons avoir, c'est le remerciement. Remercier pour les missionnaires dont nous bénéficions. Remercie Dieu qui nous a bénis ainsi. Notre Église a bénéficié de plusieurs missionnaires étrangers. Elle en bénéficie encore, c'est une chance. Remercier également les Églises qui les envoient. Remercier ces personnes. Les bénir, les soutenir, alors qu'ils sont hors de leur repère, loin de chez eux. Le deuxième mouvement que nous pouvons avoir, c'est celui de participer. Je crois que nous avons un encouragement à soutenir les missionnaires, à être une bénédiction pour d'autres. Monique nous l'a rappelé après l'offrande, nous soutenons déjà Nathan. Et ce que fait Nathan au Cameroun, il le fait en partie, en notre nom. Donc, soyons encouragés par cela et soutenons financièrement nos missionnaires, Nathan, d'autres missionnaires. Soutenons-les aussi dans la prière, face au dépaysement qu'ils vivent, face aux tensions qu'il peut y avoir sur le terrain et... Ce passage que nous avons lu de 2 Corinthiens nous rappelle que ce n'est pas facile. Prions pour eux. Et puis, un autre moyen de participer, c'est de laisser partir. et citer ce texte où l'Esprit dit à l'Église dans Acte 14, « Mettez à part Paul et Barnabé. Mettez à part. Laissez-les partir. » Laisser partir, c'est accepter de se priver de frères dévoués dans le service de l'Église, des gens actifs, des gens compétents, accepter de les laisser partir pour qu'ils servent ailleurs, pour qu'ils donnent leur énergie à d'autres. Mais ça, cette participation, c'est une bénédiction pour nous, parce qu'ils vont ailleurs porter du fruit en notre nom. Ils vont convertir le soutien qu'on apporte en œuvre bonne pour l'avancée du royaume. Là encore, nous pouvons être reconnaissants d'avoir des missionnaires qui partent en notre nom et de pouvoir agir ainsi à travers eux là où ils sont. Remercier, participer. Le troisième mouvement que je vois, c'est s'interroger. Être missionnaire, est-ce que c'est pour moi? S'interroger, discerner l'appel de Dieu à le servir, être prêt à être envoyé par l'Église pour être témoin avec les dons qu'on a. Est-ce que ça me concerne? Nous l'avons vu, ça peut prendre plein de formes différentes. Autant de dons, autant de ministères missionnaires possibles. Que ce soit des actions courtes ou que ce soit des actions longues, que ce soit près de chez moi ou au loin, l'appel de Dieu résonne. Comme avec Ésaïe, Dieu appelle encore aujourd'hui. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Demande le Seigneur. Ésaïe a répondu, « Je suis prêt. Envoie-moi. » Et moi, qu'est-ce que je vais répondre? Je vous invite à la prière. Seigneur, je veux te remercier pour l'Église que tu as constituée avec des gens de toutes les nations et avec toutes sortes de dons. Et je veux te remercier parce que au sein de ce corps, eh bien, le service circule. Et je veux te remercier parce que depuis toujours, dans cette église, il y a eu des missionnaires pour aller servir d'autres, pour aller les stimuler et les fortifier. Je veux te remercier parce que nous, dans cette église, nous sommes au bénéfice de cela. Nous avons pu être encouragés et fortifiés par des missionnaires qui se sont succédés au milieu de nous. Merci pour cela, Seigneur, et je te prie de les bénir. Aujourd'hui encore, même s'ils ont terminé leur mission. Fais-leur du bien, Seigneur, ces serviteurs fidèles. Seigneur, j'aimerais te prier pour notre œuvre missionnaire. J'aimerais te prier parce qu'à travers notre fédération, nous avons cette opportunité de soutenir des missionnaires et au Cameroun en particulier. Je te prie que nous le fassions avec joie et avec persévérance. Je veux te prier tout particulièrement pour Nathan, qui est au Cameroun. Seigneur, j'aimerais te prier que le repos qu'il a eu en France lors de son retour puisse lui servir, qu'il puisse avoir des forces sans cesse renouvelées pour cette charge immense à laquelle il s'attelle à Garoua. J'aimerais te prier que tu lui donnes la sagesse pour savoir quoi faire, quoi refuser, comment organiser son temps pour rentrer dans les forces que tu lui as données. Et j'aimerais te prier que tu puisses lui permettre de porter du fruit et d'affermir l'Église, les chrétiens, les croyants, là où ils se trouvent. Seigneur, j'aimerais te prier pour nous, pour chacun d'entre nous, alors que ton appel résonne. Tu envoies encore des gens aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous à voir en quoi ça nous concerne, en quoi nous pouvons te servir. Seigneur, nous te prions que ton règne vienne, que ton royaume grandisse sur terre, que ta paix et ta justice règnent. Te prions au nom de Jésus.